Vous écoutez l'écho du Felipe, 19e édition du Festival du Livre et de la Presse d'écologie, Felipe 2021. Cause animale et élevage, la lutte écologique passe-t-elle nécessairement par l'antispécisme? Une table ronde avec Jérôme Segal et Jocelyne Porcher, animée par Philippe Vianduri et en partenariat avec Socialterre.
Bonjour à tous, merci d'être parmi nous, d'être venus, vous intéresser à ce sujet. Par quoi je commence? Est-ce que je vous présente en premier? Je rappelle le thème de la table ronde, donc qui est intitulé la lutte écologique passe-t-elle par l'antispécisme? On va reformuler un petit peu le débat, mais on en parlera dans un deuxième temps. Je rappelle aussi qu'on va faire 45 minutes à une heure maximum d'échange entre nous, et ensuite on aura les questions de la salle, donc une demi-heure à 45 minutes selon le temps de débat, et donc vous serez libre de poser vos questions. Voilà. Et moi, je suis Philippe Vianduri, je suis rédacteur en chef du magazine Socialterre, et donc j'ai la charge d'animer ces débats dans la concorde et le respect mutuel. Ça vaut aussi pour les questions du public tout à l'heure. Donc je vais vous présenter tous les deux. Je vais commencer par vous, Jocelyne. Vous êtes sociologue et directrice de recherche à l'INRAE. Vos recherches portent sur la relation avec les animaux de ferme, principalement, mais animaux domestiques en général, notamment sous l'angle des relations de travail, de don contre don avec ces animaux. Et vous êtes sur une position pro-élevage paysan. Et l'originalité de votre parcours, c'est peut-être que vous avez quitté Paris à 25 ans, que vous êtes improvisé, si on peut dire comme ça, éleveuse, je ne sais pas si on dit éleveuse, et qu'ensuite vous avez intégré la filière porcine. Vous avez vu de l'intérieur ce qu'était la production industrielle de viande, et vous avez repris ensuite vos études, et vous avez fait une thèse sur le sujet. Et depuis, vous avez publié de nombreux livres, dont « Vivre avec les animaux », celui-ci, que vous pourrez d'ailleurs acheter ensuite et dédicacer. Et « Cause animale, cause du capital », dans lequel vous attaquez un peu plus explicitement la position animaliste, antispéciste. Voilà pour vous. Jérôme Segal, à ma droite, vous êtes historien, essayiste, journaliste, franco-autrichien. Vous êtes antispéciste, animaliste. Vous avez des candidats, je crois, en France pour le parti animaliste aux élections européennes de 2019. Et par ailleurs, votre carrière universitaire est assez complexe. Vous êtes historien des sciences. Notamment, vous avez travaillé sur la théorie de l'information dans la seconde moitié du XXe siècle. Vous avez étudié à l'Institut Max Planck. Vous enseignez aujourd'hui à la Sorbonne. L'INSPE. Et vous avez publié plusieurs ouvrages, dont certains, sur la question animaliste et antispéciste. Et donc il y a eu Animal Radical, celui-ci que j'ai ramené, 10 questions sur antispécisme, qui sera aussi en vente, et qui est un peu une introduction pédagogique sur les questions antispécistes. Et tout récemment, Tous Vegan, .. Voilà, j'oublie rien, hein, si vous complétez, vous me dites. Sur la question de la reformulation de la table ronde, on peut dire que la question qui va nous animer en fait ce soir, c'est plutôt quelle place pour l'élevage, c'est-à-dire la mise à mort d'animaux, dans une société écologique, puisqu'on est un peu dans ce thème-là, dans ce festival. Donc si on doit tendanciellement aller vers une société écologique, quelle sera la place de l'élevage, quel sera notre rapport à la mort, la mise à mort d'animaux, dans une société qui sera en tout cas à minima sortie de ce qu'on appelle vulgairement l'élevage industriel. Donc c'est un petit peu ça qui nous anime. Et qu'est-ce que, en filigrane, le thème, c'est renouer avec le vivant. Donc qu'est-ce que ça implique de renouer avec le vivant pour une position pro-élevage paysan? Qu'est-ce que ça implique pour une position animaliste? Voilà un petit peu comment on va organiser ces débats. Et je vais juste commencer par faire un rapide tour d'horizon des chiffres, puisque je ne sais pas si tout le monde est conscient, en venant ici, de l'ampleur en fait de ce dont on parle. Donc j'ai réuni quelques chiffres. Je ne vais pas citer les sources, mais je les ai quand même un petit peu vérifiés. En 2018, en France, nous avons mis à mort 1,2 milliard d'animaux pour leur viande. Voilà, 1,2 milliard. En moyenne, l'âge d'abattage est extrêmement bas. Je vais donner l'exemple du cochon. Un cochon est abattu en moyenne à 6 mois. Voilà, donc il n'est même pas vraiment adulte. Les souffrances animales, si vous voulez vous intéresser, vous pouvez aller sur le site de L214 ou d'autres pour voir un panorama de ce qu'on fait subir aujourd'hui aux animaux d'élevage. Donc mamelles inflammées pour les vaches, pour 20 à 30% des vaches, les becs coupés pour les poulets, les pattes déformées, ils peuvent plus marcher parce qu'ils croissent trop vite. La codophagie pour les porcs, donc en fait ils mangent la queue des autres porcs parce qu'ils sont stressés, donc on leur meule les dents, on les castre sans antidouleur. Je passe sur les manipulations brutales des animaux, sur le broyage des poussins mâles au bout d'un jour. Voilà, donc c'est quelques exemples de ce qu'on fait aujourd'hui. Une autre donnée que j'ai trouvée intéressante, c'est le nombre d'animaux qui ne voient jamais le jour au cours de leur vie. Donc je ne sais pas si on peut appeler une vie, en fait, une existence où on ne voit pas le jour. 97% des 52 millions de dindes abattues chaque année n'ont jamais vu le jour. 99% des 30 millions de lapins, 95% des 25 millions de cochons. Voilà. Et quant à la question écologique, bon, bah, je pense que tout le monde est au courant que manger de la viande, c'est quand même, ça a un certain poids carbone, comme on dit. Bon, certaines, comme le bœuf, sont carrément délirantes. Hein. Pour faire un kilo de bœuf, il faut 60 kilos équivalent CO2. L'agneau, le mouton, c'est 25. Le porc, c'est beaucoup moins, la volaille aussi. Ça vaut pour 14,5% des émissions annuelles mondiales. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? 70 à 80% des terres agricoles sont dédiées à l'alimentation du bétail et au pâturage. Ou encore 60% des pertes de biodiversité dans le monde sont liées à la production de viande. Voilà, donc c'est pour c'est pas un débat en fait de second ordre, je pense, qu'on a ce soir, aujourd'hui, pardon, pas encore le soir. Et voilà, c'est juste pour faire ce rappel. Et désolé pour l'avalanche de chiffres. Donc, vu qu'on va d'abord parler peut-être de l'ennemi commun, en tout cas objectif, qui est l'élevage industriel, même si ce mot n'est pas forcément adapté, je pense qu'on va revenir là-dessus. J'aimerais quand même qu'on réhistoricise un petit peu, qu'on mette un petit peu d'histoire dans cette situation où on se trouve aujourd'hui. Et pour ça, peut-être commencer avec vous, Jocelyne. Est-ce que vous pourriez nous rappeler comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Quel était l'élevage avant ? Est-ce qu'on peut encore parler d'élevage aujourd'hui ? À quel moment ça a basculé ? Voilà. Est-ce qu'à toute époque, les animaux, qui étaient des animaux de ferme, ont juste servi à leur viande ? Est-ce qu'ils avaient d'autres fonctions ? Comment est-ce que ces rapports-là ont évolué avec le temps ?
Bah, effectivement, enfin, c'est un point important, puisque comment c'est l'axe central de mes recherches que de distinguer l'élevage et les productions animales, élever les animaux et les produire. Jusqu'au milieu du 19e siècle et à la naissance de la société industrielle et capitaliste, on élève les animaux et les animaux sont des partenaires de travail des paysans. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'agriculture paysanne sans animaux à cette époque. Ce qui se passe au XIXe siècle, c'est la naissance du capitalisme industriel, l'industrialisation de la société à marche forcée et l'enrôlement des animaux dans la production du profit. En fait, les animaux, alors bon, je le dis souvent, mais il y a la naissance de cette discipline qui s'appelle la zootechnie, qui est créée ex nihilo pour servir ce projet industriel qui enrôle les animaux et l'agriculture dans l'industrialisation de la société. Et donc ça passe par un changement de statut des animaux. Donc les animaux de ferme, bah, c'était des animaux de ferme, des bœufs de labour, des cochons dans les fermes, etc. Et cette science donc, de la zootechnie conceptualise l'animal de ferme comme une machine animale, un automate, donc, qui devra faire uniquement ce qui lui est demandé. Donc en fait, c'est ce que je décris dans plusieurs articles, ce processus d'industrialisation attaché à l'animal, en fait, il sort les animaux du travail et il en fait des machines animales qui servent à produire de la matière animale. Et c'est ça une porcherie industrielle. C'est pour ça que le terme élevage industriel, c'est un oxymore. C'est que soit on est dans l'élevage, on élève les animaux, soit on est dans la production industrielle et on les produit comme des choses. Et c'est ça qui a été mis en œuvre à partir du 19e siècle d'un point de vue conceptuel, c'est-à-dire la zootechnie, c'est une conceptualisation de l'animal comme machine, du travail comme production de matière animale, etc. Et au 20e siècle, ça a été mis en acte, effectivement, notamment grâce aux antibiotiques, aux vitamines de synthèse, etc. Donc entre le 19e et le 20e siècle, la relation de travail aux animaux de ferme a été pulvérisée. L'élevage a été phagocyté par les productions animales. Et justement, ce phagocytage, on le retrouve dans le terme élevage industriel. C'est absolument pas possible. Et l'enjeu, effectivement, c'est de retrouver l'élevage au-delà des productions animales, de défendre l'élevage au-delà des productions animales, ce qui a été fait depuis le début, hein, parce qu'il y a eu une résistance paysanne à cette industrialisation, qui a permis d'ailleurs de sauver des races animales, etc. Mais donc c'est deux mondes complètement différents. C'est extrêmement important. Le monde de l'élevage, c'est un monde de résistance à l'industrialisation. C'est une résistance au modèle dominant industriel capitaliste. Et donc il survit comme il peut depuis le 19e siècle. Alors que les productions animales, c'est vraiment l'expression de l'exploitation industrielle des animaux pour la génération du profit, et uniquement pour ça. La rationalité du travail dans les systèmes industriels, elle ne sert qu'à générer du profit, c'est une rationalité économique. Alors que la rationalité du travail en élevage, elle est multiple, il y a des rationalités relationnelles. J'ai montré dans mon travail avec la renacinée relationnel était prioritaire dans le métier d'éleveur. Et puis, il y a d'autres rationalités adossées à cette rationalité relationnelle qui sont l'économie, produire. Évidemment, on ne peut pas avoir une ferme, travailler avec les animaux, vivre avec les animaux sans gagner sa vie. Et puis, des rationalités morales très fortes en élevage, des rationalités esthétiques. Enfin, voilà, un ensemble de rationalités qui construisent la relation avec les animaux et avec la nature, qui n'a rien à voir, donc un monde qui n'a rien à voir avec celui des productions animales. Au contraire, on a séparé les animaux de la nature, on les a séparés de leur activité, on les a séparés de leur monde. Enfin, et quand vous dites qu'on peut trouver des choses sur les réseaux sociaux à ce propos, j'ai écrit pas mal de livres qui décrivent ces systèmes industriels, notamment la production porcine, dans des livres, par exemple « La mort n'est pas notre métier », qui est un livre que j'ai écrit en 2003, qui décrit ces systèmes industriels. Et « La mort n'est pas notre métier », je veux dire, rien que le titre donne un peu le contenu du truc. Et puis « Cochon d'or », enfin voilà, j'écris plusieurs livres qui décrivent comment a émergé ce système, comment il fonctionne et pourquoi il tient en fait aussi, parce que ça, c'est une grande question. Pourquoi ça tient, voilà.
Et juste pour compléter ça, avant de passer la parole à Jérôme Segal, vous avez aussi beaucoup étudié du coup les éleveurs eux-mêmes et la relation qu'ils entretiennent avec leurs bêtes. Et donc la disparition de l'élevage, c'est aussi la disparition des éleveurs. Et d'un pacte, ce que vous décrivez un peu comme un pacte dans votre ouvrage, qui était finalement protection contre vie de qualité, notamment le fait de ne plus être une bête de proie, je ne sais plus comment on appelle ça, une bête aux aguets. Mais voilà, il y a la rupture de ce pacte en fait, qui était celui de l'éleveur avec l'animal de ferme, et qui était, vous parlez même d'émancipation de l'animal finalement, dans cette socialisation entre les hommes et les animaux au sein de la ferme, il y avait la possibilité d'une émancipation pour les animaux eux-mêmes. J'ai bien résumé la position.
C'est-à-dire, c'est pas une question de pacte. Je décris en référence à Mauss et à la théorie du don. En fait, j'ai décrit la relation domestique avec les animaux en rapport avec la théorie du don, c'est-à-dire avec le triptyque donner, recevoir, rendre de Mauss, qui permet de comprendre très bien à la fois nos relations dans leur fil historique avec les animaux, et puis les problèmes aujourd'hui justement qu'on rencontre. Parce que ce cycle du don a été rompu dans les systèmes industriels. Et donc, en fait, ce qui m'a mis en colère quand j'étais jeune et que j'ai découvert ces systèmes industriels, et ce qui met en colère les jeunes aujourd'hui, c'est qu'on ne respecte pas justement ce contre-don, enfin, même si eux n'analysent pas comme ça, hein, mais c'est qu'on ne respecte pas le contre-don qu'on doit aux animaux, et que donc, en fait, on n'est pas à la hauteur. C'est pour ça que la théorie de Mauss, elle est précieuse, enfin elle est vraiment super efficace pour comprendre nos relations animaux domestiques. C'est que donner, recevoir et rendre, c'est ça qui crée le lien, ce que Mauss a décrit pour les sociétés humaines. Et moi j'ai fait l'hypothèse que ce qui était pertinent pour décrire le lien social entre humains était aussi pertinent pour comprendre la place des animaux dans nos sociétés. Et donc ce qui compte, c'est ça, c'est donner, recevoir et rendre, ce qui permet de ne pas déchoir et d'être à la hauteur des animaux. C'est ce que j'ai entendu chez les éleveurs, c'est pour ça que je suis arrivé à cette théorie d'ailleurs, c'est à force de l'entendre énoncer par les éleveurs, les animaux donnent beaucoup, il faut donner beaucoup, il faut être à la hauteur, on n'est pas à la hauteur. Voilà. Et tout ça, ça m'a amené en fait à Mauss, c'est vraiment très fécond cette théorie pour comprendre le... Et là, ce qu'on a comme problème en ce moment par rapport au système industriel, c'est ça. C'est de ne pas être à la hauteur des animaux, d'avoir déchu. Et donc, l'objectif, c'est de reprendre, non pas de rompre avec les animaux, mais de reprendre les cycles du don pour à nouveau être à leur hauteur, à la hauteur des animaux.
Donc, Marcel Mauss, anthropologue français du début 20e, qui a écrit Essai sur le don, hein, c'est ça, pour ceux que ça intéresse. Jérôme Segal, dans les dernières années, au cours des dernières années, en France en tout cas, il y a eu un mouvement de réaction par rapport aux images qui sont sorties des abattoirs, du sort des animaux. Bon, tout le monde connaît, je pense, L214. Il y a d'autres associations qui ont fait ce travail-là. Néanmoins, il y a beaucoup de confusion, je pense. On entend animaliste, on entend antispéciste. On ne sait plus trop qui est quoi, qui revendique quoi. Est-ce qu'on peut compter sur vous aujourd'hui pour mettre un petit peu de clarté dans ce mouvement qui, en fait, n'est pas nouveau, qui a une histoire d'au moins 50 ans, enfin à peu près 50 ans pour vraiment l'antispécisme, mais qui remonte à des luttes animales encore plus anciennes. Donc est-ce que vous pouvez aussi, de votre côté, réhistoriciser un petit peu ces luttes et les décrire un peu plus précisément, même ces différents courants peut-être dans l'antispécisme?
Oui, bien sûr. Effectivement, dès l'Antiquité, on trouve des auteurs comme Pythagore, Porphyre, Plutarque, qui condamne la consommation de viande pour différentes raisons, parfois pour des raisons de, qu'on pourrait qualifier de religieuses, croyances dans la métempsychose, le phénomène de réincarnation qui font que en mangeant un animal, on pourrait faire du mal à un ancien humain. Mais c'est vraiment au moment du 19e siècle que la cause animale prend toute son ampleur. Bon, il y a évidemment déjà avec Voltaire, Rousseau, au XVIIIe siècle, une période sur la, on insiste sur la sensibilité des animaux. Il y a cette citation très célèbre de Bentham qu'on connaît, mais qui donne pas lieu à des mouvements vraiment sociaux. C'est plus une discussion intellectuelle au XVIIIe siècle. Sur la question n'est pas de savoir peuvent-ils parler, peuvent-ils raisonner, mais peuvent-ils souffrir, et que donc il faut éviter la souffrance. Et même parmi certains religieux des monothéismes, cette idée « tu ne tueras pas » implique qu'on ne va pas tuer des êtres sentients, puisqu'il est évident qu'une vache, un cochon a envie de vivre, et qu'on peut évidemment vivre très bien sans les tuer. Mais ce que je disais, donc, c'est qu'au XIXe siècle, il y a vraiment constitution d'un mouvement de protection des animaux. Donc, c'est le premier terme important, c'est la protection. C'est ce qu'on retrouve d'abord à Londres, au moment de la création de l'équivalent de la Société protectrice des animaux, en 1824, une première loi, la loi Martin, en 1822, et puis une vingtaine d'années plus tard, un peu la même chose en France. On a en 1845 la constitution de la Société protectrice des animaux, la SPA, qui est bien connue. Et puis pareil, une première loi, la loi Gramont, en 1850, qui vise à interdire les coups et blessures sur les animaux. Mais c'est plus dans une démarche anthropocentrée, parce que on perd du profit si on traite trop mal les animaux, ils meurent trop tôt, ils sont pas forcément propres à la consommation. De même, lorsqu'on traite mal les animaux, les cochers par exemple qui sont trop violents avec les chevaux, ça peut rendre les gens agressifs, ça peut mettre de la cruauté dans la société. Et il y a d'ailleurs un fait divers qui montre bien que c'était ce qui avait motivé la loi Gramont. C'est un jeune garçon qui avait assisté à la saignée d'un cochon dans une ferme et qui ensuite était allé faire la même chose avec sa petite sœur. Et voilà, donc on s'était dit que cette violence-là, il fallait la cacher. C'est aussi pour ça que les abattoirs partent du centre-ville et arrivent dans les périphéries. Et donc là, on est sur vraiment la protection des animaux. Et à la fin du 19e, début 20e, on entre dans une période qui relève plutôt de la défense des animaux, c'est-à-dire d'agir concrètement dans la société pour prendre la défense des animaux, notamment Ligue de lutte contre la vivisection, les expériences qui sont menées sur les animaux. Et tout cela suit son chemin. Et comme vous l'avez dit, il y a une cinquantaine d'années, on arrive à une conceptualisation à la fois philosophique et politique, avec ce qu'on peut appeler la libération animale, de la même façon qu'il y a eu l'émancipation des personnes non européennes, l'émancipation des femmes. Et bien, il y a des chercheurs, des philosophes, des sociologues, des anthropologues qui prennent en compte les résultats des sciences, qui montrent que les animaux souffrent et que donc il faut prendre leur défense. Et c'est comme ça que naît l'antispécisme. Alors l'antispécisme, c'est un mot qui commence à être assez connu en France, mais qu'on peut quand même définir. C'est l'idée que l'appartenance d'un sujet à une espèce n'est pas un critère qui justifie des discriminations, que c'est pas parce qu'on est cochon ou qu'on est chien que dans un cas, à 95% en France, on va jamais voir la lumière du jour, on va vivre sur caillebotti dans des conditions atroces que vous avez très bien résumées. Alors que si on est chien, on va avoir dans les supermarchés des rayons entiers pour le bien-être du chien, des cliniques pour chiens, des salons de beauté pour chiens, etc. Et donc ça, c'est le spécisme qui a été fondé par un psychologue britannique, Richard Rider, en 1970. De la même façon qu'il y a le racisme et le sexisme, il a dit, ben voilà, il y a aussi le spécisme, des discriminations fondées sur l'espèce. Et à partir de là est né le mouvement antispéciste, voilà, auquel je m'intéresse depuis quelques années. Et en France, il y a la réception de ce mouvement qui naît plutôt dans le milieu anglo-saxon est assez tardive. C'est dans les années 1990, donc assez récemment, avec d'abord des cahiers antispécistes lyonnais en 1991, qui deviennent ensuite les cahiers antispécistes. Et puis aujourd'hui, tout un foisonnement d'associations, de groupes. Et donc la nuance qu'on peut faire avec l'animalisme, c'est que l'animalisme, c'est prendre la défense des animaux, mais sans forcément s'appuyer sur la philosophie politique qui est devenue l'antispécisme. C'est quelque chose d'un peu diffus. Ça peut être, par exemple, j'aime trop les animaux, ils sont trop mignons, quoi. Ça peut tendre un peu dans ce domaine-là. Et un terme qu'on n'a pas évoqué non plus, mais je pense qu'il est assez bien connu, c'est le véganisme. Le véganisme, c'est refuser de participer à l'exploitation animale. Et cette exploitation animale, et là je vais enchaîner sur ce qu'a dit Jocelyne Porcher, elle est certainement pire dans les élevages industriels, mais dans les élevages de petits paysans, les élevages paysans, comme elle dit, on élève des animaux, on les fait grossir jusqu'à ce qu'ils aient atteint la taille d'un adolescent et on les tue. Et dans un élevage industriel, on élève des animaux, on les soigne jusqu'à ce qu'ils aient atteint la taille d'un adolescent et on les tue. Donc la différence apparaît pas de façon très fondamentale entre l'élevage industriel et le petit élevage. Et par ailleurs, pour compléter aussi l'historique qui a été fait sur la consommation de viande, sur la façon dont on traite les animaux, c'est simplement la démographie humaine. On avait moins d'un milliard de terriens il y a 100 ans. On est aujourd'hui à 8 milliards. Si tout le monde veut avoir le droit d'avoir son morceau de viande, on est obligé de passer par l'élevage industriel avec 8 milliards d'habitants.
Alors justement, laisser Jocelyne peut-être répondre à ça. Juste préciser encore un tout petit peu pour qu'on soit bien complet. L'antispécisme, il y a quand même plusieurs écoles, notamment celle de la pré-libération animale, le livre 75, c'est Singer, hein, je crois, qui est une école quand même... Voilà, il y a des propos comme qu'en gros sauver un animal en bonne santé vaut peut-être mieux finalement que sauver un enfant handicapé humain. Voilà, c'est donc l'école conséquentialiste, je crois. Donc peut-être qu'on peut parler quand même un petit peu de ça. Et j'aimerais aussi que vous précisiez juste une chose. Vous parlez de souffrance sur la sentience, donc le fait de ressentir la souffrance comme ce qui trace la frontière des espèces desquelles il faut respecter la vie et la souffrance, etc. Des autres comme les, je sais pas, les plantes ou peut-être les insectes. Voilà, qui n'ont pas droit à cette, qui n'entrent pas dans ce, dans cette idéologie-là. Et dans ce cas, est-ce que c'est la mise à mort le problème ou la souffrance? C'est-à-dire qu'il peut y avoir des mises à mort sans souffrance, c'est possible. Donc, en quoi les deux se rejoignent aussi?
Alors, effectivement, ça peut être un peu important de préciser un peu tout ça. D'abord, lorsque Jeremy Bentham, en 1789, dit la question, c'est peuvent-ils souffrir? On a fait beaucoup de chemin jusqu'en 1970. Et aujourd'hui, le critère essentiel, c'est le critère de la sentience. Alors, la sentience, c'est un mot qui est dans les deux dictionnaires, dans le Larousse et dans le Robert, depuis maintenant un an. Et la sentience, c'est la capacité d'un sujet non seulement à ressentir la douleur, mais aussi à vivre sa vie, à avoir des émotions, à être un individu, à avoir ses caractéristiques propres. Et on voit bien la différence qu'il faut faire, par exemple, entre une éponge de mer, qui est un animal, et une vache ou un chien. N'importe quelle personne qui a déjà eu un chien, un chat, sait que ces animaux ont des caractères, des facultés qui lui sont propres. Et c'est ce qui caractérise la sentience. Maintenant, dans le mouvement antispéciste, tout le monde s'accorde pour reconnaître que la sentience est le critère important, qu'il faut protéger les animaux sentients. On s'intéresse moins aux éponges de mer, on s'intéresse moins aux carottes, parce que ce ne sont pas des animaux qui souffrent. Et les animaux dans l'élevage, qu'ils soient industriels ou paysans, de toute façon, ce sont des animaux qui ont envie de vivre et qui sont tués lorsqu'ils sont adolescents. Quelqu'un qui mange de la viande de veau, qui mange de l'agneau, mange des bébés d'un point de vue biologique, quoi. C'est, donc ça, quel que soit le type d'élevage, ça change strictement rien. Et autre chose, une petite nuance qu'on peut faire aussi parmi les antispécistes, il y en a qui se prononcent en disant qu'ils sont abolitionnistes, comme pour l'esclavage, ils veulent mettre fin à l'élevage et à toutes les persécutions que subissent les animaux. D'autres qui sont welfaristes, qui disent on va améliorer les conditions de vie des animaux. Mais cette opposition est un petit peu factice, puisque si on prend le cas, par exemple, de L214, c'est une association abolitionniste qui vise à terme à la fin de l'élevage, mais par le chemin du welfarisme. Et on peut faire une analogie pour bien comprendre ça avec le travail des enfants. Il y a beaucoup de gens qui, au 19e siècle, étaient contre le travail des enfants, mais les lois qui ont été votées, ça a été d'abord l'obligation d'un jour de repos, la réduction de la journée de travail à 12 heures, et la réduction de l'âge à 14 ans, etc., jusqu'à ce qu'on arrive en 1880 avec l'école gratuite et obligatoire. Donc on peut dire que cette opposition entre abolitionnisme et welfarisme est un peu factice, puisqu'on peut passer par le welfarisme pour arriver à l'abolitionnisme.
Justine Porcher, il y a un rapport ici qui est fait d'identité entre l'élevage paysan et l'élevage industriel. Donc j'imagine que l'industriel serait juste le prolongement encore pire de l'élevage tout court. Est-ce que ça vous paraît pertinent ?
Non, en fait, c'est... D'ailleurs, c'est très problématique de pouvoir dire comme ça que c'est la même chose. C'est comme quand on connaît les deux mondes. Enfin, comme moi, je les ai vécus en tant que travailleur, on va dire. C'est vraiment deux mondes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc, c'est une vision conceptuelle, complètement conceptuelle hors sol, de penser que les deux mondes sont équivalents et qu'on tue des adolescents. Enfin, c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut plutôt repenser les choses du point de vue de la domestication, de nos relations aux animaux. Pourquoi on vit avec des animaux plutôt que sans eux? Voilà. Moi, je crois que c'est ça le point fondamental qui est l'objet de mon livre, d'ailleurs. Pourquoi on vit avec des animaux? Parce que les animaux nous apportent quelque chose et que travailler avec eux, c'est ça qui permet de vivre avec eux. Voilà, je pense que c'est travailler avec eux en élevage. Alors, il y a l'élevage dont on parle, mais il y a aussi le fait de travailler avec des chevaux dans les centres équestres, des chevaux qui emmènent les enfants à l'école ou les chiens qui sont chiens d'aveugle. Enfin, voilà, tous les animaux domestiques qui sont avec nous dans des rapports de travail. Parce que c'est ça le propre d'un animal domestique, en fait, c'est d'être avec nous dans des rapports de travail. Donc c'est la question du travail qui est centrale dans toute cette histoire. C'est pour ça que faire une analogie entre ces deux mondes du travail, c'est faux, parce que la question des rationalités du travail, elle est complètement différente. Le travail ne sert pas à la même chose en élevage et dans les productions animales. En élevage, le travail sert à vivre avec les animaux. Il sert à ça. C'est ce que je disais quand je disais que la première des rationalités du travail en élevage, c'est la relation. On travaille avec des animaux parce qu'on veut vivre avec eux. Voilà, donc c'est pas du tout le cas évidemment dans un système industriel. Vivre avec eux, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire partager les mondes. Voilà, c'est-à-dire que quand on vit avec des animaux, alors c'est vrai avec n'importe quel animal, c'est vrai avec des chevaux, c'est vrai avec des chiens, c'est vrai avec n'importe quelle expérience de la vie et du travail avec les animaux domestiques, on partage un monde, c'est-à-dire on rentre dans le monde de l'animal et en fait on assume notre part animale. C'est-à-dire, quand on est éleveur, on a un pied dans le monde de l'animal. Quand on est éleveur de cochons, un pied dans le monde des cochons, dans le monde des vaches, dans le monde des chevaux. Voilà, on devient plus par la relation aux animaux. On est enrichi par cette relation et on apprend des choses. Vraiment, les animaux, c'est des enseignants formidables du rapport à la vie et à la mort, justement. Et la mort, là-dedans... Ben, excusez-moi, mais la mort dans cette histoire, elle n'a pas du tout non plus le même sens dans les systèmes industriels et en élevage. Dans les systèmes industriels, la mort, c'est même pas la mort d'ailleurs, c'est la transformation de l'animal en matière animale. Enfin, j'ai travaillé dans les abattoirs, j'ai fait des enquêtes dans les abattoirs, des abattoirs industriels. On ne tue pas les animaux, en fait, c'est un détail, comme l'a dit un directeur d'abattoir, tuer les animaux, c'est un détail, c'est un processus de transformation. On produit les animaux comme des choses, on les transforme comme des choses dans les abattoirs. La mort, en fait, c'est une abstraction. Par contre, en élevage, la mort, elle existe. Là, elle est assumée par les éleveurs, elle est comprise, elle fait l'objet d'une responsabilité, justement parce que par rapport à ce que je disais tout à l'heure du don et contre-don, parce que le contre-don ultime de l'animal, c'est sa vie. Effectivement, on donne la vie aux animaux, on leur reprend la vie. Et entre-temps, l'objectif, c'est d'avoir donné une belle vie aux animaux, une belle vie partagée dans la nature, dans leur monde. Voilà. Et la mort n'a pas du tout... La mort, c'est une responsabilité. Ce n'est pas un bien de tuer les animaux. C'est un mal, effectivement, mais c'est un mal qui est rendu nécessaire par la vie avec les animaux. Parce que, pour une raison toute simple, toute bête, qu'on ne prend pas assez au sérieux quand on entend les éleveurs le dire, mais dans un système d'élevage... C'est un système fini, c'est comme notre terre. Si plus personne ne mourait, il n'y aurait pas de vie. C'est-à-dire là où il y a de la vie, il y a de la mort. Enfin, je renvoie dans La mort n'est pas notre métier, le livre que je citais tout à l'heure, je m'ai beaucoup appuyé sur Yankelevitch. Là où il y a de la vie, il y a de la mort. C'est les deux faces d'une même pièce. Donc si on dit on ne veut pas tuer les animaux, ça veut dire on ne veut pas vivre avec eux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Un système d'élevage, c'est un système fini. S'il y a des animaux qui naissent, il faut qu'il y ait des animaux qui partent. Et d'autre part, les animaux font partie de notre système alimentaire. On est omnivore, on consomme des produits animaux. Et l'objectif, c'est de sortir des systèmes industriels et de cette consommation massive, production massive matière animale absolument dénuée de sens, de valeur et d'affect, et de refaire, recréer des liens avec les animaux de ferme et assumer collectivement la mort des animaux. Voilà, par exemple, je travaille avec des éleveurs sur la question d'abattage à la ferme. Enfin, voilà, changer les conditions de la mort des animaux et comprendre que la mort existe, en fait. Que voilà, c'est pas en niant le fait que, en faisant de la mort des animaux un intolérable, voilà, c'est intolérable de tuer les animaux, donc il faut passer à autre chose, donc il faut cesser de vivre avec eux. Voilà, on tient pas compte de toute notre histoire avec les animaux, de ce que justement ce qui fait cet intolérable de la mort des animaux n'a pas toujours été un intolérable, donc c'est très lié à la société actuelle. Cette idée que la mort des animaux, c'est un crime, c'est très lié à notre société. Ce n'est pas du tout vrai, ni du point de vue de la temporalité de notre histoire avec les animaux, ni du point de vue de l'espace. Il y a des pays, il y a encore très nombreux qui ne peuvent pas faire l'impasse sur la vie et la mort des animaux pour leur survie. Donc, ce n'est pas un universel. Enfin, je veux dire, c'est ça qui pose question. Hein, c'est que l'antispécisme, il ne peut pas être un universel. Il y a des pays où, si on ne mange pas d'animaux, on ne mange rien du tout. Voilà, donc, il faut arriver à repenser les choses du point de vue de l'histoire, du point de vue des affects, du point de vue de nos liens. Ce qui compte, c'est la relation. Voilà. Pourquoi on vit avec des animaux ? C'est ça la question. Pourquoi on vit avec des animaux ? Pourquoi on veut, en élevage, que les animaux aient accès à leur monde, vivent dans leur monde, comme un monde de vaches, voilà, un monde et non pas des systèmes industriels contre lesquels je me suis battue depuis 25 ans. Donc,
Jérôme Segal, je vous laisse répondre librement, mais juste une petite pression quand même sur l'idée qu'on donne la vie à ces animaux et qu'on leur reprend. Il y a quand même une idée fondamentale qui est que l'élevage a créé des espèces, maintenant historiquement c'est le cas, hein, et que ces espèces n'existeraient pas, ces vies n'existeraient pas sans leur interaction avec le monde humain, et que si on venait dans la position abolitionniste à s'en passer, elles disparaîtraient, puisqu'elles seraient des proies faciles finalement, puisqu'elles sont définies par le pacte de protection avec les humains. Donc ce serait les voir disparaître aussi. Voilà.
Alors d'abord, je voudrais revenir sur cette idée de don contre don, de donner... recevoir, rendre. On peut lire Marcel Mauss autant qu'on veut. Les théories de Marcel Mauss, ce sont entre des sujets qui s'expriment, qui agissent en conscience, en recevant, en rendant, en décidant de rendre. La cérémonie du potlatch étudiée par Marcel Mauss, ce sont des gens qui décident, ayant reçu un cadeau, de faire un cadeau plus grand, etc. Ça ne peut absolument pas s'appliquer à des animaux qui jamais, à aucun moment, ne donnent leur accord pour finir à l'abattoir, que ce soit un petit abattoir, un gros abattoir, ou un petit paysan, un gros paysan, ça ne change strictement rien. Donc je conteste la pertinence de cette perspective. Et si on dit les animaux sont fantastiques, ce sont nos enseignants, pourquoi on tue les enseignants ? On peut trouver des enseignants fantastiques sans les tuer. Toute personne, comme je le disais, qui mange de l'agneau, du veau, mange des bébés. Donc il n'y a aucune raison de tuer ces animaux, et pas plus non plus de tuer les animaux, évidemment, plus tard. Une autre chose importante par rapport à ce que vous disiez sur les différentes espèces, suite à la domestication, les humains ont sélectionné des espèces animales. Aujourd'hui, on a des poulets qui ne peuvent même plus tenir sur leurs pattes tellement ils ont été sélectionnés, modifiés. Si ces espèces-là venaient à disparaître, ce ne serait pas grave du tout. Pendant le temps de notre débat, il y a des centaines d'espèces qui disparaissent, d'autres espèces qui apparaissent. C'est absolument pas grave s'il n'y a plus d'espèces qui ont été sélectionnées par l'humain. Il ne faut pas croire que l'humain est un dieu qui crée des espèces et qu'on doit garder ces espèces pour l'éternité, au contraire.
Il y avait une autre idée. Enfin, je suis pas sûr qu'il y ait 100 espèces qui soient apparues depuis tout à l'heure, parce que bon, généralement on les découvre, hein, elles n'apparaissent pas. Les processus de spéciation sont quand même très longs et beaucoup plus longs que les processus d'extermination en cours.
Apparaissent dans les livres et dans les encyclopédies.
Voilà. Il y avait une autre question aussi qui était celle de la superposition du monde humain et du monde animal, dans la mesure où finalement le monde de l'élevage, c'est aussi un monde avec des animaux. Enfin, ça permet un monde humain avec des animaux. Et aussi, au-delà de l'élevage, on parlait des labradors pour aveugles, etc. etc. Est-ce que, puisque le thème s'est renoué avec le vivant, est-ce que la philosophie antispéciste, c'est pas un dénoué avec le vivant ? C'est-à-dire que c'est un monde d'hommes et de femmes sans animaux, en fait.
Pas du tout. On peut très bien vivre avec des animaux. Les personnes qui choisissent d'avoir un chien à la campagne, un chat, vivent avec des animaux. Simplement, ils ne les tuent pas, ils ne les exploitent pas, ils les traitent correctement. C'est la différence avec l'élevage, où de toute façon, on tue les animaux, quel que soit le type d'élevage. Par ailleurs, on peut... moi, j'adore faire des photos d'animaux. Je cours tous les jours, je fais des photos d'écureuils, de hérons, de serpents, d'araignées. D'une certaine façon, je vis avec ces animaux parce que je les cherche quand je les trouve, quoi. Quand je cours, je m'arrête, je passe un moment avec eux. Et on peut très bien avoir un rapport avec les animaux sans les tuer, sans leur faire de mal. On ne peut pas partir du principe qu'il est normal de tuer ces animaux. Et lorsqu'on parle des Inuits ou bien des Peuls au Mali ou de ces quelques tribus humaines qui, effectivement, ne peuvent pas se passer de l'exploitation animale, j'ai juste ouvert mon livre « La tous vegan » pour avoir le chiffres, les Inuits, c'est 150 000 personnes, soit 0,02% de la population mondiale. Et le premier problème qu'ils ont, c'est l'acculturation, l'alcoolisme, la façon dont ils sont traités au nord du Canada, par exemple. On ne peut pas mettre sur le devant de la scène un Inuit qui représente 0,002% de la population humaine pour continuer de s'empiffrer de viande, même si c'est de la viande qu'on a achetée sur le marché bio du petit éleveur d'à côté, quoi. C'est même presque indécent d'utiliser ces humains pour justifier un comportement qui, d'un point de vue antispéciste, est contraire à toute éthique.
Juste, je vais me tourner un peu vers vous également, juste pour une précision historique, mais l'élevage, historiquement, est-ce que ça a toujours été... La perspective, c'était toujours de manger de la viande, ou c'était avant tout de, notamment, permettre d'avoir du fumier, enfin des choses. C'est-à-dire, l'agriculture et l'élevage, à une époque, étaient, me semble-t-il, indissociables. Et ça, c'est une question qui me semble importante, notamment pour la perspective écologique de comment est-ce qu'on changera notre régime alimentaire à terme, de est-ce qu'on peut se passer de l'élevage. Et bon, c'est pas pour faire un débat d'études très précises, mais au moins d'avoir cette perspective-là dans le débat, quoi.
Non, mais c'est ce que je redis, ce que je disais, c'est-à-dire que la rationalité du travail en élevage, c'est pas de produire de la viande. C'est d'ailleurs le fait que de focaliser sur la viande, sur la mort du veau, etc., c'est abusif, parce que les produits animaux, c'est pas seulement la viande, c'est le lait, c'est les œufs, c'est des tas de végétariens qui se disent véganes, ils sont pas véganes, ils sont végétariens, et les végétariens, c'est les premiers à avoir besoin de l'élevage. Ça, je le dis, je le pense, c'est les personnes les plus qui devraient être le plus mobilisés pour défendre l'élevage paysan, c'est les végétariens, puisqu'ils sont critiques de la mort des animaux tout en consommant des produits animaux. Donc, effectivement, les paysans, ils mangeaient très peu de viande. Les animaux, ils travaillaient dans les champs pour les uns, produisaient des œufs, etc. Enfin, la consommation massive de viande, c'est vraiment, comme les années 50, la production, le fait de produire massivement. Pour que ça soit rentable, il fallait qu'on consomme massivement. Enfin, je renvoie vers... les théories de la modernisation des années 50. Voilà, produisez, on disait aux agriculteurs, produisez, il y aura toujours des consommateurs. Et aux consommateurs, mangez, c'est bon pour vous de manger de la viande, manger du lait, etc. C'est pas les gens, il n'y a pas eu une demande des gens de consommer toujours plus de viande, de boire toujours plus de lait, etc. C'est l'industrie qui a poussé, l'industrie des productions animales, qui a poussé à cette consommation qui est complètement, absolument pas nécessaire et malheureuse pour tout le monde, quoi. Enfin, c'est pas du tout ça que je défends, quoi. C'est parce que vous dites, c'est clairement une rupture avec le monde domestique. Alors, c'est précisément moi ce que je défends, ce que je redis, que l'enjeu, c'est de vivre avec les animaux. C'est pas vivre avec les animaux, c'est quoi? C'est vivre avec des chiens et des chats, et puis laisser tomber les vaches, laisser tomber les chevaux, laisser tomber le... Non, les animaux domestiques, c'est un ensemble d'animaux avec qui on vit depuis 10 000 ans, avec qui on a construit des liens, avec qui on s'est construit, parce que c'est grâce aux animaux domestiques qu'on est devenu humain quand même, faut s'en rappeler. Et donc, là, c'est pour ça qu'on est là à un point. Ce que vous dites, c'est la rupture du don, plus simplement, c'est-à-dire le refus, en plus, de payer la dette qu'on a envers les animaux. De dire, finalement, on ne doit rien aux animaux, on va sauver les chiens et les chats, parce que, c'est des petits carnivores. D'ailleurs, je ne sais pas comment vous comptez les nourrir, mais on va sauver les petits carnivores de la critique de l'élevage, et puis on va laisser les vaches de côté... parce qu'elles ne vont pas faire partie de la communauté. Voilà, ce n'est pas la peine qu'elles fassent partie de la communauté, puisque nécessairement, des relations de travail avec les vaches, voilà, ça serait de l'ordre de l'exploitation, etc. Donc, je pense que vous pensez la rupture avec les animaux au lieu de penser les conditions de la pérennité des liens. Et ce que c'est que vivre avec les animaux, je pense que là, il y a quelque chose dans ce que vous dites qui vraiment nous différencie, c'est la corporéité de l'animal. Moi, j'ai toujours vécu avec des animaux, j'ai travaillé avec des animaux. Ma vie, elle est complètement faite du monde animal. Et c'est corporel, c'est quelque chose, c'est une intériorité, c'est une intimité, c'est une familiarité. C'est ça, la domestication. C'est la vie avec les animaux, c'est quelque chose de très précieux que les théories animalistes s'apprêtent à pulvériser.
Juste pour ne pas revenir sur la question du don, puisque vous êtes déjà exprimé là-dessus, mais sur la question très pragmatique, moi j'ai lu plusieurs études de la FAO notamment, qui faisaient des scénarios pour nourrir 10 milliards d'êtres humains en 2050, et des scénarios alimentaires, et qui tombaient grosso modo tous sur des scénarios végétariens, c'est-à-dire consommation très faible de viande, et du végétarien, c'est-à-dire quand même de la protéine issue des œufs, du fromage, du lait, etc. Donc qui supposerait une exploitation, ce que vous appelez une exploitation animale, en tout cas un élevage paysan à minima. Est-ce que, j'imagine que vous avez étudié ces questions dans Tous Vegan, je n'ai pas lu cet ouvrage, est-ce qu'une agriculture végétalienne, donc vraiment sans aucune protéine animale, est possible à l'échelle de 10 milliards de personnes dans 30 ans ?
Bien sûr, évidemment. D'abord, juste une petite clarification. Jocelyne Porcher et moi, on est d'accord sur le fait que manger du lait, c'est tuer des veaux. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de tuer des veaux et des agneaux. Mais manger du lait, c'est pareil, parce que juste, il y a beaucoup de gens qui l'ignorent. Mais si on peut boire du lait, récupérer du lait, c'est parce que la vache, comme n'importe quel mammifère femelle, a eu une naissance, un veau, une génisse qui est née. Et si c'est un veau, comme c'est un veau d'une vache laitière, il n'a aucune utilité, donc il est tué. Et donc, boire du lait, c'est parce qu'on tue des veaux. Donc, on est bien toujours sur le même thème de tuer des veaux, des agneaux et autres. Pour répondre à votre question, les animaux sont des très mauvaises machines d'un point de vue scientifique au niveau du rendement. C'est-à-dire que une vache consomme beaucoup plus de calories qu'elle n'en donne. Pareil, même au niveau des protéines, il faut donner beaucoup plus de protéines à une vache pour avoir une protéine avec la vache. Et donc, c'est évident qu'on peut nourrir l'humanité entière avec des protéines végétales. Il y a par exemple plus de protéines dans un plat de lentilles que dans un steak, plus de fer également. Donc, il n'y a aucun souci pour nourrir l'humanité. Et même, quand vous l'avez dit vous-même, 70% des terres arables sont utilisées pour l'élevage de façon directe ou indirecte, c'est-à-dire soit pour les pâturages, soit pour faire pousser du soja, déforester le Brésil pour faire du soja pour nourrir les animaux en Europe. Donc, oui, la réponse est tout à fait claire. Oui, on peut nourrir l'humanité entière sans exploiter d'animaux. Et les animaux, vivre avec les animaux, je le répète, c'est pas forcément les exploiter. On peut vivre avec les animaux, les laisser vivre librement. Même les grands mammifères, on peut laisser les cerfs, les daims, les sangliers dans les forêts. On n'a pas forcément besoin d'avoir ces animaux dans des enclos et de les traiter comme ils sont traités aujourd'hui. Donc même le rapport à l'animal, voilà, moi je pense que j'ai un rapport avec des animaux parce que j'en vois tous les jours quand je vais courir à Vienne où j'habite. Et voilà, j'ai pas besoin que ce soit une vache sur le même modèle que toutes les vaches qui sont créées de la même espèce. Donc voilà, je pense que sur toutes ces questions, l'antispécisme propose un discours tout à fait cohérent.
Juste une petite contradiction, mais la vache, elle mange des protéines végétales, mais c'est de l'herbe et on mange pas d'herbe. Donc il y a aussi pas que des. Enfin, si on nourrit aussi la vache, non pas avec du soja ou
de la culture. Aujourd'hui, les vaches en France, elles sont nourries très largement de tourteaux de soja qui vient du Brésil.
Dans une ferme, probablement pas. Enfin, une ferme paysanne.
Dans le soja, il y a des protéines.
Mais ceci dit, la question alimentaire est intéressante parce qu'elle ramène aussi d'autres sujets sur la table, notamment une accusation qui est régulièrement faite, notamment je crois par Jocelyne Porcher, aux véganes, mais donc plus largement aux antispécistes, c'est de se faire finalement les alliés objectifs du système qu'ils prétendent des fois affronter. Notamment la question alimentaire est intéressante puisque certains véganes, si je ne me trompe pas, disent, dans ce cas... puisque les gens s'accrochent à la matière animale, etc., il faudrait faire pousser la viande dans des cuves. Donc il y a des investissements qui ont été faits là-dedans pour essayer de faire pousser la viande. On appelle ça l'agriculture cellulaire. Mais il y a aussi la question de, pour rendre viable une agriculture végétale, et bien du coup, il faut, s'il n'y a plus de fumier ou d'intrants liés aux animaux et à l'élevage, il va falloir faire de l'intrant artificiel, donc ce qu'on fait aujourd'hui massivement.
Pas forcément.
Non, je vous laisse répondre. Mais voilà, donc du coup, l'accusation vient derrière qu'en fait, pour réaliser le monde des véganes et des antispécistes, il va falloir en fait s'associer à la société industrielle dans tout ce qu'on voit aujourd'hui comme excès. Je ne sais pas quelle réponse vous avez.
Alors, d'abord, lorsqu'on se nourrit, la plupart des antispécistes qu'ils peuvent se nourrissent de façon végétalienne, donc une alimentation végétale, par souci de cohérence. Mais on peut aussi être antispéciste et être un enfant de 14 ans qui n'a pas les moyens, qui est obligé de manger ce que les parents préparent. Donc, c'est pour ça qu'il y a une petite nuance. Mais donc, lorsqu'on adopte une alimentation végétalienne, ce qui est mon cas, rien ne m'attire pour aller acheter les saucisses qui sont faites par Beyond Meat ou autres sociétés qui font des saucisses de ce genre. On peut très bien justement avoir le plaisir de cuisiner des céréales, des légumineuses, des légumes et se porter très bien. Voilà, moi j'avais un peu de cholestérol avant de devenir végane, j'en ai plus du tout maintenant. Et les associations professionnelles de nutritionnistes sont très claires là-dessus. Comme je viens d'avoir 50 ans, j'ai dû faire aussi un examen pour voir si tout allait bien au niveau du côlon. Mon gastro-entérologue, qui n'est pas du tout végane, a dit « Ah, vous avez une alimentation végétale, c'est le mieux qu'on puisse avoir pour vous. » Donc pour la santé, il n'y a absolument aucun problème. Pour l'alimentation non plus. Ensuite, si le capitalisme fait feu de tout bois en toutes circonstances, donc s'il y a une demande pour des gens qui ont compris que manger de la viande c'est pas éthique mais qu'ils ont quand même envie d'avoir des steaks hachés, et ben très bien qu'on leur donne du Subutex avec des produits, des steaks végétaux qui sont meilleurs pour la planète, qui consomment moins d'eau, parce qu'un litre de, enfin, un kilo de viande c'est 15 400 litres d'eau. Donc si les gens pour une transition vers le végétal prennent des steaks végétaux, effectivement, il n'y a pas de problème. Et ce n'est pas parce que ça va être Unilever, Nestlé ou autre qui vend ça qu'on va s'y opposer. Quoi. L'eau qu'on a du robinet, c'est aussi un gros groupe capitaliste qui la gère à Paris. Quoi.
Je vais laisser Jocelyne répondre. Juste une dernière précision. Je vais reformuler très précisément la question puisque c'est un des chapitres dans votre livre. Mais est-ce que l'antispécisme est un anticapitalisme? C'est ça la question derrière.
Effectivement, il y a des aspects, oui, enfin non. Puisque de toute façon, les antispécistes veulent réduire la souffrance animale, qu'aujourd'hui, vous l'avez dit en introduction, 80% des animaux sont dans des élevages industriels de type ultra-capitaliste. Les antispécistes sont évidemment principalement opposés à ce type d'élevage. Mais si on regarde comment les animaux sont traités dans d'autres régimes, comment les animaux étaient traités au Cambodge, en Chine communiste, à l'époque de l'URSS, etc., c'était pas mieux. Donc on voit bien que c'est pas le capitalisme qui est la cause du problème. C'est simplement le souci de la rentabilité. Un petit paysan, il a aussi besoin de faire du profit, sinon il peut pas payer ses factures et peut pas survivre. Et c'est dire aussi pour ça qu'il y a un si fort taux de suicide parmi les paysans, parce que c'est pas du tout viable comme type d'économie. Ils vivent des subventions européennes qui, là encore, sont trustées par les plus gros exploitants. Donc, ça montre bien que si on veut vraiment parler de l'élevage et de l'antispécisme, la question, c'est pas le capitalisme. La question, c'est la souffrance animale et qu'est-ce qu'on fait face à cela une fois qu'on a compris que les animaux ne sont pas sur Terre pour finir en beefsteak.
Une réponse, Justine Porcher.
Juste pour préciser par rapport à l'alimentation végane, tu vois, elle correspond pas déjà à l'alimentation des jeunes enfants. Je pense que là, il y a une omission sur le fait, bon, déjà que ça nécessite l'alimentation végane, une complémentation en vitamine B12. Donc il y a un élément très clair qui vient de la relation à l'animal qui constitue la santé qui manque dans l'alimentation végane. Et d'autre part, oui, que je pense que nourrir les jeunes enfants avec une alimentation végane, là, c'est purement et simplement de la maltraitance au niveau médical. Après, sur l'agriculture cellulaire, effectivement, moi, ce que j'ai travaillé donc aux animaux, cause du capital, c'est le lien historique entre la protection animale et la défense des animaux et le capitalisme, le fait que c'est là aussi les deux faces d'une même pièce, que la protection animale elle émerge en même temps que se développe l'industrialisation de l'élevage. et que du coup, l'agriculture cellulaire telle que se développe aujourd'hui, c'est vraiment le fil de ce qui précède. C'est-à-dire que la zootechnie du 19e et du 20e a transformé l'animal pour en faire un producteur de matière animale à partir des animaux. Donc c'est une industrie lourde, hein, les productions animales. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a les moyens techniques et via les biotech, et c'est vrai, des procédés innovants, de produire la matière animale à partir de la cellule et d'un incubateur, et non plus de l'animal lui-même. Donc, en fait, c'est le même fil, sauf qu'on change de niveau d'extraction de la matière animale, quoi. Au lieu d'aller chercher la matière animale via la production des cochons, l'abattoir, etc., eh ben, on prend une cellule de cochon, on fait multiplier ça dans un incubateur, et puis voilà, on aura la matière animale profitable. Et voilà. Alors, ce qui m'a étonné quand j'ai écrit Cause animale, c'est le fait que les animalistes, voilà, pour résumer comment cette mouvance, du point de vue des plus grandes associations, comme notamment PETA, hein, qui depuis 2008 défend cette agriculture cellulaire, puisque c'est en 2008 déjà, ils avaient proposé au labo qui produirait de la viande de poulet cellulaire de 1 million de dollars de subventions. C'est en 2008, donc PETA, la grosse association mondiale de défense des animaux, avait déjà en tête en 2008 que finalement ça serait pas mal de faire une agriculture sans élevage et de remplacer l'élevage par des produits de l'agriculture cellulaire. Alors il y a deux choses comment je peux souligner là, sur ce sujet, c'est que c'est évidemment c'est pas les véganes, même si les associations véganes défendent, les associations animalistes prônent le véganisme, etc., défendent cette agriculture cellulaire, c'est pas pour eux, bien évidemment. Et PETA le dit clairement que c'est pour les gens ordinaires, c'est pour vous et moi qui allons acheter des trucs au supermarché, parce que, dit PETA, puisque les gens sont pas capables d'avoir des comportements moraux, puisqu'ils continuent, ils persistent à vouloir manger de la viande et des produits animaux, eh ben, on va les obliger à être moraux malgré eux, et on va soutenir cette agriculture cellulaire qui les obligera dans leur alimentation à avoir des comportements moraux. Donc ce fil historique qui est lié à l'industrialisation, qui est lié aussi, c'est pour ça que moi je défends l'élevage comme un anticapitaliste, qui est lié aux rapports de classe, aux rapports sociaux. Il y a vraiment quelque chose de très fort en élevage entre cette relation aux animaux et les rapports sociaux et les rapports de classe, très, très nettement. Et puis l'autre chose, c'est que cette agriculture cellulaire, elle est le marqueur, en fait, quand on entend ceux qui en parlent, ceux qui la défendent, de ce que l'animal... Mais d'ailleurs, on l'entend donc, quand on entend Jérôme Segal, dans ce que l'animal est en fait une abstraction. Par exemple, il y a Marc Post qui dit, qui est un des pionniers de l'agriculture cellulaire, celui qui a fait le premier hamburger in vitro en 2013, qui dit, de toute façon, la viande cellulaire, c'est pareil que la viande d'une vache, sauf qu'elle grossit en dehors de la vache. Voilà. Pour Marc Post, une vache, c'est un producteur de matière animale. Alors, au lieu d'aller la chercher dans la vache, on va aller la chercher par l'incubateur. Mais pour lui, c'est exactement la même chose. Une vache, ce n'est que la matière animale qu'elle contient. Enfin, ça, c'est la pensée zootechnique du 19e, du 20e. C'est la pensée abstraite qui oublie que derrière les animaux, que d'ailleurs, on ne vit pas avec les animaux pour les manger, pour manger du lait, etc. On vit avec les animaux parce qu'on aime vivre avec eux, parce qu'ils nous apportent quelque chose. Je redis ce que j'ai dit, c'est-à-dire que c'est pour ça que la moitié des Français vivent avec des animaux, soit des chiens, des chats, des chevaux et par exemple des vaches, quand on peut avoir un troupeau de vaches et vivre avec des animaux tirés et revenus de sa relation avec les vaches, etc. Et donc là, c'est quelque chose de fondamentalement différent que cette représentation de l'animal qu'ont les défenseurs de cette agriculture cellulaire, que ce soit les animalistes, ou que ce soit les start-up, ou que ce soit start-up, je le souligne, qui sont soutenus par les milliardaires, les GAFAM, en fait, parce que là aussi, ça c'est intéressant, qu'on passe du capitalisme industriel pour soutenir les productions animales, en tant qu'industrie lourde, au capitalisme numérique, qui soutient là maintenant l'agriculture cellulaire. L'idée, c'est pour ça qu'en fait les défenseurs de la cause animale sont aussi dans les grandes associations partisans de cette agriculture cellulaire, c'est quel est le moyen de l'agriculture sans élevage qu'ils défendent. Voilà. L'idée, c'est de faire une agriculture sans élevage, puisque c'est mal de tuer les animaux. Et donc, on peut manger et vivre sans les animaux. Donc, voilà, une agriculture sans élevage. Le seul moyen, ce n'est pas le véganisme, en vérité, c'est l'agriculture cellulaire, parce que là, elle a un impact mondial, parce qu'elle est portée elle est portée mondialement par ceux qui ont l'argent, c'est-à-dire les GAFAM, essentiellement les fonds d'investissement, les grandes fondations américaines et autres. Donc voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'industrialisation de l'élevage, elle s'est faite avec trois grands acteurs qui étaient l'argent, la banque à l'époque, hein, que ce soit au 19e ou au 20e siècle, la science. La science, c'est un moteur de l'industrialisation de l'élevage puissant et un moteur des biotech. Et l'industrie, évidemment. Et donc, là, c'est les mêmes acteurs qu'on retrouve aujourd'hui, la science, l'argent, l'industrie, avec cet acteur paradoxal qui est la cause animale, puisque normalement, on s'attendrait de ceux qui défendent la cause animale, qui défendent la cause des animaux, ce que je défends personnellement, ce que les éleveurs défendent, la cause des animaux, la cause de notre vie avec eux, de notre vie bonne avec eux, d'une vie sensée avec eux, etc. Et là, finalement, cette cause animale, elle est du côté du capitalisme numérique, elle est du côté de ce qui tend à nous dissocier du monde des vivants et à faire de nous des zombies, en fait. Parce que la viande in vitro, je l'ai écrit dans plusieurs articles, c'est du mort-vivant, en fait. Donc c'est du mort... du vivant biologique, c'est-à-dire c'est des cellules, c'est vivant les cellules, mais c'est du mort subjectif. Et c'est pour ça qu'on a une relation de vie et de mort avec les animaux, c'est que c'est une relation vivante, avec du travail vivant qui fait qu'il y a une subjectivité, il y a des affects, il y a de l'intelligence, il y a de la relation. Voilà, évidemment, ce qu'il n'y aura pas dans un amas de cellules.
Je vous laisse répondre. Ensuite, on ouvre les questions à la salle pour une vingtaine de minutes.
Oui, je vais être plus concis. D'abord, c'est tout à fait inexact de dire qu'on ne peut pas être un enfant avec un régime végétalien. En dehors des nutritionnistes qui sont payés par le lobby agroalimentaire, aucun nutritionniste n'affirme cela. L'Association américaine des nutritionnistes, qui regroupe 100 000 spécialistes, a dit qu'un régime végétarien ou un régime végétalien était adapté à tous les âges de la vie. Dans tous les cas, on peut être femme enceinte, sportif de haut niveau, nourrisson, personne âgée. Tout le monde peut avoir une alimentation végétalienne. Et je suis allé moi-même enquêter en Israël auprès des Hébreux africains de Jérusalem. C'est des Noirs qui sont arrivés en 1970 en Israël, qui sont strictement véganes, donc avec une alimentation végétalienne. Et il y a déjà la troisième génération qui naît aujourd'hui, donc de parents véganes, de grands-parents véganes. Et ils se portent parfaitement bien. Il n'y a aucune maladie cardiovasculaire, il y a zéro cas d'obésité. Et il y a des scientifiques qui viennent là-bas pour comprendre pourquoi l'alimentation végétalienne est si positive. Concernant la B12, effectivement, les végétaliens se complètent en B12. Faut savoir que la majorité de la production, c'est pour les animaux d'élevage. C'est si les personnes qui mangent de la viande ont de la B12, c'est parce que ces animaux ont synthétisé de la B12 avec ce qu'on leur a donné. Et puis des compléments, on en mange tous. Si le sel aujourd'hui est iodé, n'importe quel sel qu'on achète au supermarché, c'est parce qu'on a besoin de se supplémenter en iode pour pas souffrir de crétinisme. Donc il y a aucune honte à prendre des suppléments et de dire que oui, les végétaliens, c'est pas naturel parce qu'ils prennent de la B12. Oui, c'est pour ça qu'ils sont en bonne santé. C'est pour ça que je cours 5 marathons par an et que je me porte très bien. Et il n'y a aucun problème avec ça. Et donc, c'est comme prendre du sel iodé. Il n'y a aucun souci. Et concernant l'agriculture cellulaire, comme c'est dit ici, ça s'appelle aussi tout simplement de la viande de culture, c'est-à-dire l'idée de faire se reproduire des cellules. Et c'est pas quelque chose que personnellement je prône comme étant la solution à tous les problèmes, mais ça peut être effectivement, comme je l'ai dit, une transition vers une alimentation végétalienne. Et c'est de toute façon préférable de manger des steaks végétaux ou bien même, si jamais ça a été commercialisé, de la viande de culture, puisqu'on évite de faire souffrir des animaux pour rien, pour un simple plaisir gustatif. Si l'argument, c'est le steak, c'est trop bon, si les gens ont besoin de leur steak, qu'ils prennent un steak de viande de culture.
Merci à vous deux. On va ouvrir la question à la salle, si j'imagine qu'il y a des questions.
Bonjour. Merci bien pour ces présentations. Moi, je m'interrogeais sur les petits élevages, l'éthique des petits élevages. Vous disiez, Jocelyne Porcher, vivre avec les animaux, parce qu'on aime vivre avec les animaux, c'est ça qui définit les petits élevages, développer un lien avec les animaux, une familiarité. Et moi, ça me fait penser à deux choses. J'ai une grande tante qui a des lapins, elle en a 6, je crois. Ils sont dans des cages, des toutes petites cages qui font la taille de leur corps. Ils n'ont pas de prénom. Elle ne s'intéresse pas à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils ressentent. Ce n'est pas son sujet. C'est juste 6 lapins qui traînent, qui sont là pour être mangés un jour, quoi. Et où est la relation dans cette situation ? Et pourtant, là, on est vraiment dans un tout petit élevage. Et en fait, elle dit, oui, mais si on ouvre les cages, ils vont partir. Et ils ne reviendront pas, même si je les nourris. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas envie de revenir, en fait ? Donc ce truc de la relation forcément bonne, forcément enviée par les animaux avec les petits éleveurs, j'ai du mal à l'accepter comme une généralité systématiquement valable. Le deuxième exemple, c'est j'ai un ancien camarade de classe qui est pêcheur aujourd'hui, petit pêcheur. Sa pratique, ça consiste à extraire un animal de l'eau. Il le prend dans ses mains, il est en train de se débattre. Manifestement, il demande qu'une chose, c'est à retourner dans l'eau, à continuer de vivre, à pas souffrir d'asphyxie, parce que c'est ce qui est en train de se produire à ce moment-là. Et lui, il n'est pas du tout en train de vivre avec cet animal. Il n'est pas du tout en train d'éprouver de l'empathie pour cet animal. Tout ce qu'il voit, c'est qu'il a un trophée dans les mains. Il a un animal qui est grand, c'est impressionnant, et ça fait une jolie photo. Et il se prend en photo tout souriant, et il la met sur les réseaux sociaux. Et il garde cet animal et il continue sa pêche. Je vois pas en quoi ça, c'est vivre avec les animaux parce qu'on aime vivre avec les animaux, c'est développer un lien avec les animaux, une familiarité.
Ah déjà, faut faire une distinction, ce que vous dites, petits éleveurs et élevage paysan. Moi, je ne vous parle pas de petits éleveurs. Et ça peut être des petits éleveurs qui ont des systèmes de production animale. Voilà, un système... de petits éleveurs avec plein de lapins en clapier qui sortent jamais c'est pas de l'élevage c'est pas la déontologie de l'élevage paysan. C'est pas, petits éleveurs, ça veut rien dire. L'élevage, faut se rappeler, par rapport au fil historique que je décrivais, que les éleveurs qui existent aujourd'hui, c'est des résistants, les éleveurs paysans, pas forcément les petits éleveurs, les éleveurs paysans, c'est-à-dire ceux qui ont une vision politique de leur travail. C'est le travail qui transforme la société. C'est par le travail qu'on peut participer à la sauvegarde de la planète, à une défense écologique. Et c'est pour ça que l'élevage paysan, il est écologique et il est par le travail. Et donc, c'est pas de dire tous les petits systèmes de petits éleveurs là et plus ou moins hérités du passé, ça relève de l'élevage paysan. Non. L'élevage paysan, c'est une dynamique politique qui est une résistance au modèle dominant. Donc on peut aller chercher comme ça des petits exemples de maltraitance animale un peu partout. Enfin, je veux dire, ça a aucun intérêt. C'est l'idée, c'est de considérer l'élevage paysan du point de vue de ce qui contient de politique, de transformation du monde, de transformation de nos relations aux animaux, qui permettent de continuer à vivre avec des animaux. Parce que c'est ça l'enjeu. J'ai pas une vision idyllique de l'élevage paysan, puisqu'il a été, c'est une dynamique de résistance au modèle dominant, et c'est des systèmes qui ont été affectés par les productions animales. Effectivement, il y a des nombreux systèmes de petits éleveurs, et d'ailleurs on le voit bien par exemple en système laitier, qui ont été très touchés par les productions animales, par l'idéologie des productions animales. Donc c'est ça qu'il faut travailler, c'est repolitiser l'élevage paysan. Le redécrire comme une option politique de transformation du monde et d'aller effectivement transformer ce qui peut être transformé avec les éleveurs eux-mêmes, et pas de façon avec les éleveurs, avec les citoyens. Il y a des tas de choses à faire avec les éleveurs pour transformer l'élevage et qu'ils puissent porter les promesses du travail qu'ils portent. Voilà, c'est-à-dire les promesses du travail avec les animaux qui maintiennent la relation et qui la rendent belle et utile pour nous, parce qu'on mange tous les jours et on est 7 milliards quand même.
Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ?
Alors moi, je suis antispéciste, donc je vais être un peu biaisée. Enfin, ma question s'inscrit dans ce mouvement politique. Vous dites que si on abolit l'élevage, on ne pourra plus vivre avec les animaux. Mais dans le mouvement animaliste, il y a des lieux qu'on appelle des sanctuaires. C'est des lieux où il y a des animaux qui ont été secourus de maltraitance, de l'élevage, des animaux qui ont été sauvés d'abattoirs. Et c'est des lieux où on continue de vivre avec les animaux parce qu'on aime ces relations avec les animaux. On n'a pas envie de pas vivre avec les autres espèces. Et il y a des chèvres, des moutons, des chats, des chiens, des lapins, des chevaux, parce que quand on est... moi, je n'ai pas envie de ne plus vivre avec des animaux autant domestiques que sauvages. Donc, on peut continuer de vivre avec des animaux, qu'ils aient une belle vie qui ne va pas être interrompue par la mort qu'on va leur infliger. Donc, on peut continuer de vivre avec les animaux. On peut vivre sans les manger, être en pleine santé, sans tuer, exploiter les animaux. Comment est-ce qu'on peut justifier de perpétuer l'élevage alors que, donc, on peut vivre avec les animaux sans les exploiter et on peut se nourrir et nourrir l'humanité entière, même de façon beaucoup plus efficace, avec l'agriculture végétalienne. Voilà, j'ai du mal à voir qu'apporte l'élevage. Oula, c'est pas une bonne. J'ai pas réussi à conclure. Enfin voilà, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire.
Oui, j'ai compris, mais je vais répondre brièvement. Mais c'est un sanctuaire, ce que vous appelez un sanctuaire. Moi, je vous dirais qui paye. Qui paye pour la nourriture des animaux, pour leur entretien? Il y a quelqu'un qui paye. Les associations. Donc, c'est ça le problème. C'est que si vous sortez les animaux du travail encore, d'ailleurs, je simplifie, parce que à mon avis, ils ne sont pas sortis du travail, c'est simplement un sanctuaire, c'est un zoo, quoi. Voilà, c'est tout. C'est un lieu. Il y a beaucoup de sanctuaires qu'on visite. Aux États-Unis, d'ailleurs, ils sont payants. Ces sanctuaires d'animaux, retraités. Il faut que quelqu'un paye. Et d'ailleurs, j'anime un projet de recherche sur la retraite des animaux, justement, en élevage, la retraite des chevaux, la retraite des vaches, la retraite des animaux reproducteurs, voilà, ceux avec qui on vit 10-15 ans. Et il faut que quelqu'un paye, voilà, c'est ça. Il faut trouver le sanctuaire, c'est ça. Et l'élevage, c'est pour ça qu'on travaille, qu'on produit quelque chose, c'est parce qu'il faut... Il faut gagner sa vie, il faut avoir un revenu pour vivre avec des animaux. Et le sanctuaire, c'est le bon exemple de ça. Il y a un sanctuaire où, par exemple, il n'y aurait plus personne qui donnerait d'argent, et ben, il disparaît. C'est tout simplement. Il faut que quelqu'un paye. C'est pour ça que vivre avec les animaux, c'est la question du travail qui est centrale. Pour qu'on puisse vivre avec les animaux, il faut qu'on travaille avec eux, qu'on tire un revenu de notre relation avec eux, qui permette, voilà, de continuer le cycle du don que je décrivais. Là, dans votre truc, il n'y a pas ça. Et maintenant, à propos de ce que vous disiez sur à quoi ça sert l'élevage, basiquement, je pourrais dire déjà que ça sert à faire des paysages. C'est-à-dire, imaginez qu'il n'y ait plus toutes les prairies qu'il y a dans toutes les zones qui ne sont pas cultivables, qui retournent en forêt. D'ailleurs, c'est le cas dans beaucoup d'endroits. Ça serait un monde de forêt, où on ne pourrait pas rentrer d'ailleurs. Les paysages, ils sont construits par l'élevage, surtout en montagne par exemple. En montagne, on ne fait pas de ski s'il n'y a pas à un moment donné des animaux qui pâturent. Non, moi non plus, je ne fais pas de ski, mais il y en a qui en font. Tous les paysages, ils sont construits par l'élevage historiquement. Tous nos paysages, tout ce qu'on appelle la nature, c'est les animaux et nous qui l'avons façonné. Donc oui, si c'est l'élevage, s'il n'y avait plus d'élevage, tous les paysages seraient transformés Et en plus, bon, ça serait vraiment malheureux de plus voir d'animaux dehors.
Je voulais juste apporter une, reprendre un petit peu la deuxième partie de la question qui avait été posée au début. Madame Porcher, donc vous insistez sur l'importance du travail comme valeur centrale qui explique notre, qui justifie notre relation avec les animaux. Mais manifestement, dans le cas de la pêche qui avait été abordée par le jeune homme au premier rang, il n'y a pas de travail. Le poisson ne travaille pas pour le pêcheur. Et donc, est-ce que vous condamnez fermement la pêche et la chasse ? Puisqu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de don, de recevoir, de rendre, etc.
Absolument pas. D'ailleurs, je ne condamne rien du tout. Simplement, je décris les choses et j'essaie de les comprendre. Maintenant, je pense qu'à propos de la chasse, Charles Stepanov vient d'écrire un livre très beau sur la chasse. Donc, je renvoie les gens qui s'y intéressent et vous-même à sa lecture. Maintenant, moi, non, je n'ai pas fait d'enquête auprès des chasseurs, non pas plus que des pêcheurs. Donc, je ne saurais rien dire de ça. Mais en tout cas, je ne condamne pas a priori qui que ce soit. Sauf à m'être informé avant. Quoi.
Oui, j'aurais envie quand même de prioriser un peu les choses quand même, parce que pendant qu'on discute, ça veut dire qu'il y a des augmentations des gaz à effet de serre, on nous promet que l'EN 5 s'est déjà dépassé, on nous promet donc les 4-7 à l'horizon 2100, la Terre va devenir inhabitable. Moi, je veux bien... qu'on discute sur un débat philosophique qui ne va pas être tranché ni aujourd'hui ni demain sur la souffrance animale ni sur la mise à mort des animaux d'élevage, mais il faudrait quand même qu'on arrive à une disparition quasi complète si on veut donc survivre, nous et les animaux, donc sur Terre, à un horizon que nos enfants vont pouvoir vivre.
Justement, puisqu'on sait que l'élevage est une aberration d'un point de vue écologique, l'élevage est responsable de 14,5% de la production de gaz à effet de serre d'origine anthropique, donc liée à l'activité humaine. C'est-à-dire que les éleveurs sont responsables de plus de pollution de gaz à effet de serre que tous les transports réunis, tous les avions, tous les bateaux, tous les camions sur toute la planète Terre. Prôner une orientation vers le véganisme, comme le font les antispécistes, c'est justement avoir un rôle majeur dans la lutte pour le climat. Donc là, on est vraiment au cœur du sujet. Et justement, défendre la viande, soi-disant de petits éleveurs, petits paysans qui font ça très gentiment, c'est autoriser des phénomènes de licence morale, à savoir énormément de Français achètent de la viande du petit producteur au marché bio le dimanche et se croient autorisés à acheter ensuite du saucisson, du jambon, etc. Tout un tas de produits industriels le reste de la semaine. Donc je pense que si on se focalise sur est-il éthique de manger de la viande ou non, il y a une dimension éthique sur la souffrance animale, etc., qui ne vous intéresse pas, ça je le comprends bien. Mais d'un point de vue écologique, puisque c'est le point que vous soulevez, s'orienter vers un régime végétalien est plus que nécessaire si on veut sauver la planète, tout simplement.
Je rappelle que les 14% en question, c'est l'industrie des productions animales, hein, ce n'est pas l'élevage. L'élevage paysan, au contraire, c'est ce que je disais, c'est des prairies, donc de la captation de carbone. L'élevage paysan n'est absolument pas producteur d'effet de serre.
Il est anecdotique.
Non, il n'est pas anecdotique. Non. Il n'est pas anecdotique. Au niveau mondial, il n'est pas du tout anecdotique. Non. C'est l'essentiel au niveau mondial de la relation aux animaux.
Merci. Moi aussi, je voudrais parler de cette histoire d'écologie, parce qu'on était là pour parler de ça à la base. Il y a quelques années, je présentais un livre que j'ai fait avec Jocelyne Porcher qui s'appelle « On achète bien les éleveurs ». Et j'ai rencontré une dame qui m'a expliqué qu'elle était antispéciste et qu'elle ne mangeait pas bio. Parce qu'en effet, elle a tout à fait raison. L'agriculture bio, c'est un mode d'agriculture moralement répréhensible. Qui inclut les animaux dans son cycle. Et une agriculture... alors, vous avez parlé aussi, la jeune femme a parlé d'agriculture végane aussi, ou d'agriculture antispéciste, je ne sais plus. Mais en fait, ça, cette mode d'agriculture-là, sans les animaux, il suppose ce qu'on fait le plus... ce qu'on fait très couramment, en fait, un mode d'agriculture qui est complètement majoritaire, qui consiste à utiliser des engrais azotés, sur lesquels les Amis de la Terre font campagne en ce moment, qui sont produits à base de pétrole et qui ensuite font des cycles ouverts du pétrole dans lesquels les cultures produisent ensuite des gaz à effet de serre. Donc on a un système qui n'est pas du tout vertueux,
sur le plan climatique, sur le plan aussi de la biodiversité. Quand c'est pas de l'agriculture de conservation des sols, c'est une agriculture qui tue les sols, qui tue la microfaune, qui tue tous ces autres êtres. Et donc la question, c'est est-ce que l'écologie, ça doit être une manière d'envisager le rapport avec le vivant de manière hyper conceptuelle, ou est-ce que ça doit être une manière de penser comment on vit ensemble le mieux possible et on mange sans dégrader le milieu? Et moi, j'ai la faiblesse de penser que c'est la deuxième réponse. D'autre part, je voudrais juste dire un truc sur la question de la relation. Vous avez parlé du fait que vous croisiez des animaux. Et que pour vous, c'est une relation qui est suffisante et qui vous nourrit. En ville, il y a beaucoup de gens qui croisent des êtres humains toute la journée et qui, en revanche, sont très seuls et qui vivent seuls. Et cette solitude, elle n'est pas palliée par le fait de croiser des gens, quoi, de croiser des êtres humains quand on va faire ses courses. D'autre part, vous avez parlé des animaux qu'on a chez soi, les chats, les chiens, et vous avez dit que c'est des relations qui sont dignes et des vies qui sont dignes, mais ces chats, ces chiens, soit ils ne se reproduisent pas, soit ils n'ont pas de relations sexuelles. Et, c'est-à-dire que vous les protégez, vous les nourrissez, mais ensuite, alors soit vous les tuez quand ils font des petits, soit vous les empêchez d'avoir des relations sexuelles ou de se reproduire. Donc je voudrais savoir, est-ce que ce modèle-là que vous avez de relation avec les animaux, comment vous l'appliquez aux relations avec les êtres humains et aux vies qu'on peut avoir, notre vie sociale et affective?
D'abord, en ce qui me concerne, je n'ai pas d'animaux de compagnie et je ne souhaite pas en avoir, donc je ne vais pas forcément défendre ce système. Je conçois juste que des gens aient des chats et des chiens, surtout s'ils habitent à la campagne ou même d'autres types d'animaux, je ne sais pas, des oiseaux ou autres. L'aspect important, c'est que ces animaux doivent avoir une vie acceptable. De toute façon, ces animaux auront une meilleure vie que les animaux des élevages, quels qu'ils soient. Le contrôle de la sexualité, par exemple, je rappelle que les vaches, elles sont inséminées, que c'est pas, qu'il n'existe pas de vaches qui se promènent librement, puis qui un jour, par hasard, rencontrent un taureau, et puis, ah tiens, zut, je suis enceinte. Ça, c'est peut-être dans les livres pour enfants, mais ça ne correspond pas à la réalité. Donc, de toute façon, les humains qui vivent avec des animaux contrôlent presque toujours la sexualité de ces animaux. Moi, je ne vis pas avec des animaux, donc je ne me prononce pas là-dessus. Mais si le sujet, c'est de comparer les animaux d'élevage et les animaux de compagnie, il est clair que les animaux de compagnie ont une vie bien meilleure que les animaux d'élevage. Et par ailleurs, à l'extrapolation aux humains, tout ce qu'on a entendu tout à l'heure sur... on veut vivre avec eux, on veut les protéger. C'était aussi ce qui justifiait l'esclavage. Et il y a un parallèle qui peut évidemment choquer les gens qui mangent de la viande ou qui exploitent les animaux. Mais il y a un parallèle qu'on peut faire. Les arguments des esclavagistes, c'est exactement les mêmes. C'était « mais on vit avec eux, on partage beaucoup de choses avec eux, c'est une vraie relation ». Fondé sur le travail, on les nourrit, on les soigne. Regardez, on a ici un petit hôpital pour soigner les esclaves qui sont malades. Donc, je pense que si on veut, comme vous le faites, étendre aux humains, puisque vous parlez d'une extension possible de ces relations aux humains, justement, l'histoire de l'humanité a montré que ce qui compte, c'est le respect des individus. On a reconnu que les Noirs sont des personnes, les Africains sont des personnes, les femmes sont des personnes, et les animaux sentients sont aussi des personnes. Et c'est justement, effectivement, une rupture, comme l'a dit très justement Jocelyne Porcher, une rupture d'ordre épistémologique, puisque ça change complètement notre rapport aux autres animaux. Et c'est aussi une reconnaissance de l'œuvre de Charles Darwin, c'est-à-dire que nous sommes, nous, des primates, nous faisons partie du monde du vivant, et on ne doit plus être au-dessus de tout et décider du sort de toutes les autres espèces, mais se considérer comme une espèce parmi d'autres, avec plus de responsabilités, puisqu'on a plus de capacités de nuisance.
Je voudrais juste corriger là, à propos de la sexualité des animaux. En élevage paysan, si les vaches elles rencontrent le taureau et les verras rencontrent les truies, et j'ai des anecdotes superbes sur la sexualité des animaux en élevage, parce que oui, ça fait partie du bien-être des animaux pour les éleveurs paysans que les animaux aient une sexualité. Donc ils ne sont pas C'est faux que de dire que toutes les vaches sont inséminées. C'est complètement faux.
Dernière question.
Merci pour tous ces échanges très, très intéressants. Moi, ce qui me désole un petit peu, en fait, c'est ce que je sens. Je suis extrêmement sensible à la cause animale et je comprends l'antispécisme. Et je trouve que malheureusement, on arrive à des extrémités qui sont un petit peu contre-productives. Voilà, par exemple, ça pose plein de questions. Hein. Je n'ai pas de réponse et je n'ai pas de vérité. Mais je veux dire, ça pose des questions. Enfin, je suis d'accord. Enfin, l'animal domestique, c'est l'animal avec lequel on travaille. C'est l'animal. Globalement, c'est l'animal qu'on exploite. Enfin, et l'animal domestique, le chat. Moi, j'ai un chat. Je l'avoue, dans un appartement, je l'avoue. Les gens qui font de l'équitation, etc. C'est de l'exploitation animale aussi. On peut se poser plein de questions aussi là-dessus. Je pense que la question n'est pas forcément le fait de tuer l'animal. C'est quand même de l'exploiter, de le faire travailler. Donc c'est voilà, bon, c'est une question. Enfin, je trouve que c'est dommage de réduire le problème au fait qu'on le tue. Après, c'est une vraie question. Moi, je partage en fait assez fortement les positions de Jocelyne Porcher sur le fait que bon, il y a l'élevage extensif, ça porte plein de choses, ça porte une histoire très ancienne en fait, et moi qui me touche aussi beaucoup sur le lien à l'animal en fait, sur le travail. Et bon, moi j'ai un certain âge, j'ai un peu vécu à la campagne au tout début de mon existence, et j'ai vu aussi, enfin, je veux dire, par exemple, tuer un cochon. Vous donniez un exemple sur le gamin qui est allé égorger sa sœur après avoir vu tuer le cochon. Mais tuer le cochon, c'est aussi une cérémonie. C'est-à-dire, là, c'est une mort qu'on met en scène. Enfin, c'est pas, enfin, il se passe quelque chose. La mort, on l'affronte, quoi. C'est pas le jambon qu'on va acheter au supermarché sous vide et dont on a complètement oublié pour la plupart des gens que effectivement au départ il y a un cochon et du vivant derrière en fait. Et ça, je pense que pour moi un des grands problèmes c'est comment l'homme aujourd'hui globalement il aborde l'animal et l'animal de cours d'eau aussi d'ailleurs. Moi je le vois, je suis ministre de l'environnement, enfin bon, j'ai bon bref comme quelque chose à manger. Enfin, je pense que globalement on a un problème de rapport au vivant, je crois, quand même, nous les humains, enfin globalement. Et donc pour moi une des grandes causes, c'est vraiment de remettre en fait de la conscience dans tout ça. Il faut qu'on soit conscient qu'on mange du vivant. Je pense pas qu'il faut absolument s'interdire de manger du vivant. Enfin, d'ailleurs, bien sûr que le végétal c'est aussi du vivant, et que l'animal, ce qui a eu du sens, ce qui a été un individu. Enfin, c'est quelque chose qu'on doit respecter. C'est vrai qu'on a un certain nombre de sociétés. Enfin, on sait aujourd'hui, grâce aux travaux des anthropologues, on remercie l'animal qu'on a tué, ou on remercie, je sais pas quoi. Enfin, bon, bref, on a un respect de ça. Et ça, je pense que c'est ça l'essentiel, en fait. Et en fait, ce qui me désole, ce que je voulais dire surtout, c'est que on devrait faire cause commune. Enfin, il y a quand même l'enfer, l'horreur aujourd'hui, c'est quand même l'élevage industriel. Et que là, on est en train de se tirer les uns sur les autres, parce que ça prend quand même des proportions. Je trouve assez dur, quoi, hein, vos positions. Et en fait, je trouve quand même, bon sang, essayons de nous accorder pour lutter contre l'élevage industriel, qui est une horreur sans nom, dont on n'a pas besoin, parce que comme vous dites tous en accord les uns avec les autres, on peut tout à fait réduire, alors soit annuler, soit réduire largement la consommation animale, et en tout cas passer à des protéines végétales, etc. Enfin, il y a quand même de quoi faire. Enfin, on a de quoi travailler ensemble, quoi, plutôt que Et je trouve qu'on a un mouvement écologiste, c'est quand même un des grands soucis, quoi. C'est effectivement, on a une base très commune. C'est dommage de ne pas travailler ensemble, et plutôt de passer trop de temps, enfin, moi je trouve, hein, sur nos dissensions. Voilà. Merci.
Je ne sais pas si vous voulez réagir.
Non, je crois que effectivement que la grande catastrophe, c'est ces systèmes industriels, leur impact, leur côté immonde. Enfin bon, j'ai écrit beaucoup contre ces systèmes, donc j'ai pas de mots assez forts pour les décrire et montrer combien ils sont abjects. Mais en même temps, c'est sûr que la position politique avec Monsieur Segal ou les animalistes, elle est différente. C'est-à-dire que est-ce que sortir des systèmes industriels, c'est s'orienter vers l'agriculture cellulaire en soutenant l'orientation capitaliste du monde, ou est-ce que on veut une rupture et que dans ce cas-là, on soutient l'élevage paysan comme projet politique de rupture avec le capitalisme. Je pense que c'est quand même pas un détail, hein, parce que critiquer le système industriel, oui, Mais c'est justement le problème, par exemple, d'une association comme L214 qui a énormément de moyens. Moi, je trouve que c'est une pitié. C'est une pitié que cette association, elle ait des moyens énormes et qu'elle, toute son énergie, elle la mette pour défendre une agriculture sans élevage au lieu d'aider les systèmes d'élevage paysan, quitte après, admettons, quand on n'aura plus que de l'élevage paysan, à dire ah ben, ça va pas. Mais là, c'est... Et voilà, c'est une association en plus qui reçoit de l'argent de fondations américaines. Enfin, donc, ils ont perdu leur âme, clairement, cette association. Et voilà, ça c'est du gâchis. Ça c'est du gâchis, effectivement. Parce que l'élevage paysan, ce que je disais, c'est des résistants. Ils vont disparaître. Je pense que en tant que citoyen ordinaire, il faut qu'on en ait conscience. Ils vont disparaître parce que, bon, c'est vegan, ça c'est une anecdote de l'histoire, mais parce que quand il y aura l'agriculture cellulaire, tout le côté moral que porte le véganisme, évidemment, il sera dissous par l'agriculture cellulaire, puisque dessus, il y aura écrit « sans meurtre animal ». Donc on pourra tranquillement manger de l'agriculture cellulaire et puis se soucier d'être végane ou pas. Donc en fait, le soutien des défenseurs des animaux à l'agriculture cellulaire, ils creusent leur propre tombe. Enfin bon, ça, c'est pas mon problème. Mais le fait de vouloir d'autres rapports aux animaux, une autre société. C'est ça. Est-ce qu'on veut vivre avec les animaux et dans quelle société? Voilà. Est-ce qu'on continue à cette impasse capitaliste ou pas? Est-ce qu'on en sort et comment? Et ma proposition, c'est d'en sortir avec les animaux et pas sans eux. Voilà, c'est ça le...
Et juste de façon plus concise, en sortir, c'est simplement en renonçant à toute exploitation animale. Si aujourd'hui on pourrait être unis contre l'élevage industriel, il faut bien comprendre que l'élevage paysan qu'on nous propose ici, c'est vraiment continuer à avoir son petit marché pour les bobos du 3e arrondissement le dimanche matin. Mais si on veut nourrir 8 milliards de personnes, il faut clairement repenser, est-ce que oui ou non on peut manger de la viande? Et la réponse d'un point de vue écologique, c'est non. Après, d'un point de vue moral, à mon avis, c'est non aussi. Mais si vraiment on s'intéresse à l'écologie et à ce qu'on peut continuer à manger de la viande, non, il faut forcément s'orienter vers une alimentation végétalienne. Et le petit éleveur paysan, c'est anecdotique, c'est folklorique. Sur une terre à 8 milliards d'habitants, ce n'est pas du tout réaliste. Qui plus est, l'élevage paysan produit par rapport à la quantité de calories et de protéines créées, plus de pollution. Un élevage intensif, au prorata de la viande produite, c'est beaucoup moins. Ne serait-ce à cause de la durée, un poulet d'élevage, c'est 35 jours. Et on est tous d'accord pour dire que c'est absolument horrible. Mais un petit fermier qui va faire du poulet, il va le garder plus que 35 jours. Et au total, si on fait le même raisonnement avec les autres animaux, ça produit plus. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut manger de la viande, oui ou non? Et d'un point de vue écologique, les 14,5% de production de gaz à effet de serre d'origine anthropique liée à l'élevage, ça montre bien que c'est là qu'il faut vraiment commencer à agir.
Merci à vous. On peut leur dire merci et vous applaudir pour votre travail.